Ce week-end, l'Orchestre français des jeunes s'installe pour deux concerts dans l'auditorium de l'Opéra de Dijon. On est avec la directrice générale de l'orchestre, c'est vous, Charlotte Ginos-Lassic, un orchestre dont la création remonte à 1982.
Tout à fait. En fait, c'est un orchestre qui a été créé à l'impulsion du ministère de la Culture, qui était alors dirigé par Jack Lang, qui a aussi créé la fête de la musique d'ailleurs, et qui a créé de nombreux événements qui continuent aujourd'hui à structurer notre paysage. Et Jack Lang était à l'époque accompagné par un grand homme en fait pour la musique qui s'appelait Maurice Fleuret. Et Jack Lang et Maurice Fleuret ont fait le constat que les métiers d'orchestre souffraient d'une forme de désamour de la part de jeunes musiciens français de très haut niveau. Et que peut-être il fallait leur donner un outil pour leur montrer à quel point l'orchestre était un environnement incroyable, stimulant. Et ça a été la naissance de l'Orchestre français des jeunes, donc en 1982, c'est-à-dire un orchestre école qui visait à rassembler des jeunes musiciens de toute la France et à leur faire comprendre l'incroyable richesse des métiers d'orchestre.
J'ai entendu orchestre école, ça veut dire que c'est un orchestre qui a une vocation pédagogique.
C'est l'alpha et l'oméga de l'OFJ, la pédagogie. C'est pas un orchestre professionnel, l'Orchestre français des jeunes, c'est un orchestre dans lequel le droit à la formation et l'objectif de formation priment surtout. Et ça commence dès le démarrage. Même les auditions, par exemple, de l'Orchestre français des jeunes, ce sont pas du tout des auditions comme on va trouver pour rentrer dans des orchestres professionnels où il y a un paravent, où le temps est beaucoup plus limité, où la compétition aussi est très forte. À l'Orchestre français des jeunes, tout est un geste pédagogique du tout début jusqu'à la fin. L'Orchestre français des jeunes, c'est un orchestre où on est là pour apprendre. Et c'est quelque chose qui, pour l'équipe, pour le conseil d'administration aussi, extrêmement déterminant. On peut ne pas savoir plein de choses, en fait, quand on rentre à l'Orchestre français des jeunes. On va recruter non pas des jeunes musiciens qui sont confirmés, mais des jeunes musiciens qui sont en chemin, qui sont déjà très forts, mais qui ont tout à apprendre sur le terrain de l'orchestre. Et c'est la mission principale de cet effectif.
Mais ça veut dire qu'on fait la tournée des conservatoires et des grandes écoles ou on s'y prend comment, ou on attend qu'on candidate chez vous?
Les deux. En fait, il y a actuellement les auditions pour l'Orchestre français des jeunes sont ouvertes, donc les jeunes sont en train de déposer leur dossier. Et à partir de janvier-février, je vais avec une équipe parcourir toute la France. On va dans 9 villes françaises écouter les jeunes au plus près de là où ils sont. Et à ce moment-là, on découvre des classes, des enseignements, des jeunes. Pour en recruter un certain nombre, on va en écouter à peu près 800 et on va en recruter 110 à 120. Chaque année. C'est une audition, mais ce n'est pas un concours. Déjà, pour moi, les mots ont vraiment un sens, c'est-à-dire que la dimension formative du moment où on les écoute est extrêmement importante. La dimension pédagogique, peut-être, c'est plus français. Et ils ont tous un répertoire commun, c'est-à-dire par instrument, ils vont avoir 3 ou 4 traits d'orchestre au premier tour. Donc, des traits d'orchestre, c'est-à-dire des extraits très courts de pièces d'orchestre qui sont des pièces ce qu'on appelle emblématique. Moi, je parle souvent de grammaire du répertoire. Et à côté de ça, ils vont jouer une pièce de leur choix. Et pendant un temps court, on va les faire travailler. On va voir comment ils réagissent à nos propositions. Est-ce qu'ils ont envie de bouger? Est-ce qu'ils restent sur leurs propositions? Est-ce que finalement, ils sont arrivés très stressés, mais en très peu de temps, on va arriver à, comme ça, établir un contact? Ça va être ces critères-là qui vont être pris en compte.
Il y a ceux qui jouent la musique en orchestre et puis il y a ceux qui les dirigent aussi, les chefs d'orchestre que l'on écrive au masculin ou au féminin. Alors on ne va pas faire toute la liste qui commence avec Jérôme Kaltenbach à la création et aujourd'hui avec Christina Pascal. Qu'est-ce qui provoque chez les chefs l'envie de venir vous rejoindre et de diriger cet orchestre pendant quelques années, un temps assez court en général quand même?
C'est effectivement une excellente question parce que quand on a une chef comme Christina Pascal ou son prédécesseur Michael Schoenwindt, ce sont des gens qui ont des carrières internationales, mais énormes, qui ont des emplois du temps énormes, enfin, je veux dire, qui sont souvent entre des avions, des trains. Et l'Orchestre français des jeunes, comme tous les orchestres de jeunes, est un orchestre où il faut prendre du temps. C'est un orchestre qui va vraiment leur demander beaucoup de temps dans des agendas qui sont extrêmement chargés. Donc, qu'est-ce qui provoque leur désir? Ben, les jeunes, tout simplement. Le fait que collaborer avec la jeunesse, d'abord, c'est une façon de passer le flambeau, de passer le relais. Et un certain nombre de chefs pour lesquels, en fait, c'est une mission extrêmement importante de préparer l'avenir avec elles et eux. Et puis, un orchestre français des jeunes, qui est un orchestre de promesse. Moi, je dis toujours, l'orchestre français des jeunes, c'est une promesse en soi. Et ça, prendre ce temps-là, travailler avec des jeunes qui ont tout à construire, en fait, c'est extrêmement complémentaire de leur activité professionnelle avec des orchestres pros. Dans lesquelles les choses sont déjà beaucoup plus établies. Il y a sans doute moins de travail sur le long terme. Mais du coup, c'est vrai que ce temps long est un temps qui est précieux dans la carrière d'une chef ou d'un chef international, comme actuellement, effectivement, Christina Bosca.
Orchestre français des jeunes, il faut évidemment, j'imagine, être bon musicien, avoir envie de jouer en collectif, mais il faut aussi parler l'anglais.
Oui, mais là encore...
C'est pas dommage quand même, ça, cette obligation de parler anglais dans un orchestre qui s'annonce comme français.
Cet orchestre, il est français parce que les jeunes sont français, parce qu'on fait de la musique française, parce qu'on a des solistes français, mais je pense qu'on peut quand même avoir une vision de la France qui est une vision ouverte à l'étranger, me semble-t-il, c'est important.
La pédagogie suppose quand même une richesse d'échange.
Oui, bien sûr, mais avec les coachs qui parlent français, avec l'équipe qui parle français. En revanche, il y a une réalité qui est incontestable, qui est celle que tous les orchestres français aujourd'hui parlent anglais avec un certain nombre de moments de leur carrière. Pour moi, ce n'est pas le sujet. L'Orchestre français des jeunes, c'est un orchestre qui doit préparer au métier dans sa réalité actuelle. Or, la réalité actuelle d'un musicien d'orchestre, c'est qu'il va être amené à parler anglais. Et donc, il y a un temps du travail où c'est en anglais, mais en fait, la part de l'anglais est assez réduite.
Charlotte Ginos-Lastic, l'activité de l'orchestre est organisée en trois saisons parce que il y a un lieu qu'il faut absolument mentionner, même si on va revenir très vite à ce qui se passe ce week-end dans l'auditorium de Dijon. C'est la Salide Royale d'Arquesnan, un lieu où l'histoire de l'orchestre a commencé, que vous avez un petit peu abandonné, et puis l'orchestre est revenu à la Saline ensuite. La saison de l'orchestre s'organise en trois temps.
Voire quatre en fait, puisque depuis 2 ans nous avions mis en place une session supplémentaire, donc 3 à 4 selon les années. Effectivement, l'été et l'automne, nous sommes dans ce lieu qui est complètement extraordinaire, qui est la Saline Royale d'Arquesnan, qui est un lieu qui est vraiment très propice à la concentration des jeunes.
Avec une belle salle de concert depuis.
Avec une salle de concert magnifique, avec une activité à l'année magnifique, avec un engagement sur le territoire. Qui est impressionnant, avec une équipe extrêmement présente, extrêmement engagée. C'est vraiment un lieu impressionnant, la Saline Royale, à la fois par l'histoire qu'il porte et par ce qui en est fait aujourd'hui. Donc ça, c'est la Saline Royale pour l'été et l'automne. Et l'hiver, nous sommes donc à l'Auditorium de Dijon. Et en fait, les lieux sont complémentaires parce que la Saline n'est pas un lieu qui a été pensé pour l'orchestre, c'est un lieu qui a été pensé pour le travail du sel. Et aujourd'hui, l'orchestre le réinvente. À l'inverse, l'auditorium est un lieu qui a été pensé pour l'orchestre. Et donc, finalement, de bénéficier de deux lieux, un lieu du passé qui s'adapte à une activité d'aujourd'hui et un lieu qui est beaucoup plus récent, dont l'acoustique est totalement exceptionnelle. C'est une des meilleures acoustiques de France, l'auditorium de Dijon. C'est un immense privilège pour cet orchestre.
deux concerts ce week-end à Dijon. Le premier, donc, ce samedi, ce sera à 17h. C'est un concert qui, lui aussi, est pédagogique d'une certaine manière.
Ben oui, parce que ça fait partie des missions des musiciens d'orchestre que de s'adresser à tous les publics. Et d'ailleurs, on sort beaucoup des salles de concert, on le sait peu. Mais les jeunes font beaucoup de musique de chambre pour plein de publics qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à la salle de concert. Et donc, il y aura un concert famille, c'est-à-dire un concert dans lequel on avait une œuvre qui s'adaptait parfaitement à ça, qui était le Scheherazade de Rimsky-Korsakov, c'est-à-dire un conte des mille et une nuits, avec cette figure incroyable de conteuse qui est Scheherazade. Et effectivement, on s'est dit, mais pourquoi ne pas doubler et faire un concert classique qui est le dimanche? Et imaginer une proposition pour les familles avec Guillaume Lavoie, qui est le responsable du service éducatif de l'Auditorium de Dijon, et qui va donc présenter à la fois l'orchestre et puis présenter cette œuvre et donner des extraits pour faire une sorte de plongée dans l'orchestre pour les plus jeunes, plus courte, avec juste une œuvre, mais qui correspond bien aussi, je trouve, à l'esprit de Noël qui se rapproche.
Ce dimanche à 17h, concert alors tout public, et vous êtes là rejoint par un autre très grand artiste, c'est Alexandre Tarot.
En fait, Alexandre Tarot, c'est un compagnon de l'orchestre un peu spécial, puisque donc en 2023, on avait monté le concerto en sol de Ravel, et on avait adoré travailler avec Alexandre, et donc en 2025, j'ai proposé de revenir et de monter cette fois le deuxième concerto de Shostakovich. Et Alexandre, c'est à la fois un très grand pianiste, mais c'est aussi un homme extrêmement généreux, c'est quelqu'un qui a envie de transmettre. Et donc pour ça, c'est vrai que c'est un compagnon de route important pour l'orchestre.
Un compositeur aussi au programme du concert qui n'est pas très connu du grand public, et pour cause, on est en musique contemporaine au sens de notre temps.
Yann Maresch, c'est un compositeur aujourd'hui, pour moi, c'est un des meilleurs compositeurs pour l'orchestre. C'est quelqu'un qui a un sens de l'orchestre, qui sait faire sonner l'orchestre, et on s'est aperçu cet été, quand on a fait sa pièce qui s'appelle Recto, que le public était assez saisi par l'univers qu'il arrivait à déployer. C'est une œuvre qui a été hyper difficile à monter pour l'orchestre parce que c'est une sorte de jeu de ping-pong rythmique qui demande à la fois une exigence, une précision rythmique et en même temps un sens.
Vous écoutant, j'ai l'impression que vous êtes en train de me décrire un exercice.
Pas du tout. Ah non, c'est de la musique géniale. C'est une œuvre qui est drôle, qui est joyeuse et qui en même temps est hyper difficile pour l'orchestre, qui est toujours intéressant. L'orchestre français des jeunes, Scheherazade aussi, c'est hyper difficile pour l'orchestre. C'est une œuvre d'une difficulté redoutable. Et nous, ça nous intéresse de travailler des œuvres difficiles parce que s'il y a 20 ans, on ne fait pas des choses exigeantes, c'est beaucoup plus difficile de les faire après.
Charlotte Gilloslastic, est-ce que vous savez déjà à quoi ressemblera l'orchestre de 2026?
Ben non, parce que j'ai pas encore commencé les recrutements. Je le saurai en avril à quoi ressemblera l'orchestre de 2026. Pour l'instant, je n'ai aucune attente, aucune vision, parce que ce sont les jeunes qui sont l'orchestre. Et tant que je les ai pas rencontrés, entendus, sélectionnés, je ne peux pas savoir.
à l'auditorium de l'Opéra de Dijon, samedi 17h, les enfants, les familles, un concert relativement court sur une peu grande longueur pour tout le monde. Le dimanche à 17h aussi, et cette fois, alors on retrouvera, on a parlé de deux pièces au programme du concert du dimanche, mais on retrouvera aussi cette suite chez Razad de Rimsky-Korsakov en conclusion du concert. On met les liens sur le site de BFC Classique.